L'actualité des Alpes du Sud, le projet de remontée mécanique sur le vieux Chaillol abandonné.
Alors que l'enquête publique se terminait vendredi, le maire Gérard Blanchard décide de mettre fin à ce projet de diversification touristique, se disant victime d'agressions et intimidations.
Sous la bâtie Mont-Saléon se cache un sanctuaire romain.
La commune de moins de 250 habitants voit se succéder depuis plusieurs semaines. Des archéologues, minutieusement, ils mettent à jour des temples ou objets romains, car le village était autrefois le carrefour de voies de circulation entre Sisteron, Grenoble, mais aussi l'Italie et la vallée du Rhône. Reportage avec les équipes de l'INRAP.
Et saviez-vous que pour passer le code de la route, il fallait déjà s'y préparer à l'école primaire?
C'est ce qu'on appelle l'APER, l'attestation de première éducation à la route. Ça se fait à vélo dans la cour de récré. Pour épauler au mieux ses futurs cyclistes puis automobilistes, la mairie de Gap a conçu un kit pédagogique remis la semaine dernière à l'école du stade. Une météo fraîche aujourd'hui.
Oui, avec encore quelques nuages bas présents, notamment au début de matinée sur les Hautes-Alpes, dans les fonds de vallée du Dévoli, du Champsaur, de la Haute-Romanche. Mais ça évolue favorablement, le soleil brille largement, seuls quelques petits cumulus apporteront un petit peu d'ombre en montagne. Néanmoins, les températures sont en dessous des normales saisonnières. Les maxi plafonnent sur les Hautes-Alpes de 14 à 18 degrés. Comptez entre 16 et 19 degrés et sur les Alpes de Haute-Provence. Et il n'y aura donc pas de remontée mécanique sur le vieux Chaillol.
Ce projet porté par la municipalité de Saint-Michel-de-Chaillol est abandonné, annonce du maire Gérard Blanchard. L'édile aurait été victime d'agressions à coups de bâton et d'intimidation depuis que son conseil portait le projet d'un télépulsé panoramique à 1700 mètres d'altitude emmenant les touristes à 2400 mètres. Si l'objectif était de favoriser la diversification touristique quatre saisons, plusieurs associations environnementales dénonçaient une bétonisation de la montagne. Gérard Blanchard se dit aujourd'hui contraint et forcé d'abandonner alors que l'enquête publique s'est achevée vendredi. Satisfaction du côté du collectif Sauvons le vieux Chaillol qui voit le fruit d'un soulèvement citoyen démocratique et argumenté. Une centaine de personnes s'étaient par ailleurs mobilisées vendredi.
Et nous prenons ce matin la direction de l'abatis Mont-Saléon où depuis quelques jours, les brouettes, les truelles, les maîtres à mesurer se relaient.
Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas là d'un chantier de construction, mais plutôt d'un chantier de fouilles, car ce ne sont pas des ouvriers qui sont à pied d'œuvre, mais des archéologues. Car sous ce petit village d'à peine 250 habitants, dans le Buëch, se cache un sanctuaire romain. L'abatis Mont-Saléon fait l'objet depuis 1804 de fouilles archéologiques, depuis la première demande du préfet de l'époque, Charles-François de la Doucette. C'est dans cette lignée de découvertes de notre passé que depuis début mars et jusqu'au 4 juin prochain, les équipes de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, sont présents sur le département. En visite sur le chantier, Christophe Lourenço nous fait découvrir l'envers du décor.
Je suis en train de dégager un niveau de sol qui était venu contre un mur et je suis en train de voir ce qu'il y avait dessous. Puis les grosses machines, le problème c'est que dans les angles des murs, si elles viennent, on détruit les murs, quoi. Donc on y va à la pioche et à la truelle.
Certains diront qu'il suffit de creuser à la bâtie Mont-Saléon pour trouver des vestiges de l'époque romaine. En effet, près de 10 hectares de la commune ont des souterrains remplis d'histoire, un véritable bien commun de l'humanité. C'est ainsi qu'après une cartographie archéologique et un sondage du sol, des fouilles ont permis de découvrir en 2010 un sanctuaire romain ponctué de petits temples d'origine celtique sur une aire de 1000 mètres carrés. Recouvert depuis par la maison du propriétaire du terrain, ce site s'est plus de 10 ans après élargi sur le terrain adjacent avec ses dernières fouille d'archéologie préventive missionnée par le ministère de la Culture. Même si cet espace connaîtra le même destin que son voisin, les découvertes effectuées permettront d'enrichir les connaissances sur cet ensemble culturel état des lieux avec Lucas Martin, responsable scientifique de la fouille.
Non seulement dans la suite, mais aussi d'autres éléments avec d'autres types de sanctuaires sur une occupation qui est assez longue puisque ça commence juste avant le Christ, au 1er siècle avant, et on a encore une occupation jusqu'en 400-410. Et l'essentiel de cette occupation est constitué par un sanctuaire, donc c'est un ensemble avec des petits temples et un certain nombre de pièces qui étaient sans doute liées soit au culte, soit pour les officiants. On avait également un puits votif dans lequel certainement les gens devaient jeter des éléments comme des amulettes ou des monnaies pour se faire bien voir des dieux.
Ancien carrefour de voies de circulation entre Sisteron et Grenoble, mais aussi entre l'Italie et la vallée du Rhône, Montséléus, de son nom antique est indéniablement marqué par son passé, mais cela n'empêche pas son maire, Alain Dailly, de regarder vers l'avenir, un avenir où un site archéologique pourrait être préservé au long terme pour le grand plaisir de sa population locale.
À 100 mètres de là, on a un grand temple qui fait à peu près 50 mètres sur 40 mètres, qu'il faudrait mettre à nu pour voir exactement ce qu'il y a dans le sous-sol. Mais il faut trouver un moyen de persuader le propriétaire de mettre à disposition le terrain, le temps de la fouille. Si on acquiert le terrain, on aura la possibilité de faire un toit au-dessus des fouilles qui permettrait de conserver ce qu'on a trouvé. Si on pouvait avoir la matérialisation du grand temple, ce serait la cerise sur le gâteau pour les habitants.
Même si ce projet n'est qu'un espoir pour l'instant, la volonté est bien présente de la part de la municipalité qui aura besoin de tous les financeurs publics possibles à l'instar de l'État ou de la région et même de l'Union européenne.
Merci Christophe. Notez que les archéologues de l'INRA présenteront le site au public lors d'une journée porte ouverte. Ce sera le samedi 19 juin à l'occasion des journées européennes de l'archéologie.
Qu'est-ce que l'accès au droit? Qu'est-ce qu'un point justice? Voici des questions auxquelles tous les Hauts-Alpins n'ont pas toujours les réponses.
C'est ainsi que dans le cadre de la journée nationale de l'accès au droit, un juriste sera à la disposition de toutes les personnes intéressées ce mardi au tribunal judiciaire de Gap. Cette journée des droits permettra de transmettre toutes les informations pratiques sur les deux permanences en matière d'accès au droit qui se situent à la maison Pommier à Gap et à la maison de justice et du droit du Briançonnais sur la cité Vauban. Pour plus de renseignements, consultez le site du CDAD 05. Politique, exit le Sénat, mais peut-être le Conseil départemental. Patricia Moret-Richaud est candidate sur le canton de la Reine-Montéglin avec l'un de ses conseillers municipaux, Kevin Kerel. L'ancienne sénatrice des Hautes-Alpes se dit au sein d'une équipe solide et complémentaire qui veut le rayonnement et le développement des territoires de la Méouge, du Buëch et de la Durance. Un binôme avec l'humain au cœur des actions, c'est ce qu'elle dit, qui a pour suppléant la conseillère municipale de Ventavon, Sandrine Gabé, et l'adjoint au maire du Poète, Jean-Pierre Pellegrini.
L'apprentissage du code de la route s'apprend dès le plus jeune âge et à deux roues.
C'est une première pour Gap. La ville a livré à l'école du stade vendredi un kit pédagogique « Savoir rouler à vélo » destiné aux élèves de CM2. Il est composé de panneaux de signalisation, de plots ou de sens giratoires et la cour de récré devient là un vrai parcours urbain pour que les enfants soient de bons cyclistes mais aussi des piétons alertes et de futurs conducteurs prudents. C'est une obligation, les enfants doivent valider l'APER, l'attestation de première éducation à la route. Cette formation inscrite dans les programmes de l'école primaire consiste à évaluer les savoirs et comportements des enfants avec trois blocs d'apprentissage. Savoir pédaler, comme freiner dans une zone délimitée, conduire son vélo sur un parcours de slalom simple, mettre son casque et le régler. Puis savoir circuler avec des panneaux de signalisation tout en adaptant sa conduite et en respectant le code de la route. Et dernière étape, pas des moindres, aborder une sortie vélo en situation réelle. Pascal Rogon est adjointe au maire de Gap, déléguée à l'éducation.
Le kit a vocation à répondre à trois objectifs. Le premier, c'est la mobilité qui s'inscrit dans la politique de la ville de Gap. Le deuxième, c'est renforcer les actions de prévention et sur cette opération, c'est la prévention routière. Et puis, c'est aussi permettre à des enfants de développer leur agilité à vélo. C'est un outil qui s'inscrit dans une action Alcotra, qui est une action qui s'inscrit dans le programme européen. Tout a été fait par le service de la direction d'éducation de la ville de Gap. Il a été monté de toutes mains.
Pour finaliser le programme, ce sera au collège où les petits conducteurs passeront alors la SSR, l'attestation scolaire de sécurité routière. Elle leur permettra plus tard de passer le code de la route.
Chasse aux éco-chèques pour la fête des mères.
Après les bons retours sur le week-end de Pâques, l'association Les Enseignes de Briançon relance cette initiative pour le week-end de la fête des mères. Les commerces locaux participants distribueront donc des tickets à gratter à leurs clients à partir d'un certain montant d'achat. 500 euros étaient mis en jeu lors de Pâques. Là, ce sont 1000 euros qui sont en jeu avec 100 tickets gagnants d'un montant de 10 euros sur un lot total de 800 tickets. Le but de cette opération est de booster l'économie locale et dynamiser les commerces pour la fête des mères avec une opération commerciale qui se dit sympathique et originale. Plus de renseignements sur les magasins participants sur alpe1.com. Et puis, cette information, Moustier-Sainte-Marie est la quatrième ville la plus belle dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une distinction qui a été délivrée par le magazine Géo.
Alpes 1 Sport.
Deux joueurs formés à Villard-de-Lans avec les Diables Rouges.
L'effectif d'Éric Medeiros continue de se renforcer en hockey sur glace avec les arrivées de l'attaquant de 24 ans Antoine Torres et du défenseur de 23 ans Thomas Carminati. Le plus âgé des deux sort de 3 années concluantes en D1 avec les Remparts de Tours où il a comptabilisé 17 buts en 63 rencontres. Un temps de jeu important et nécessaire à son évolution pour intégrer la Magnus selon le club alpin. Pour sa part, le natif de Saint-Martin-d'Air est resté avec les Ours de Villard-de-Lans jusqu'en U20 avant de rejoindre les Dragons de Rouen. Sur les 3 dernières saisons, il a oscillé son temps de jeu entre la Magnus et la D2 avec les champions de France en titre ainsi qu'en D1 avec les Drakkars de Caen par le biais d'une licence bleue.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.